Nous reprenons donc nos réflexions sur les grandes doctrines politiques considérées d'un point de vue assez spéculatif et abstrait. Nous avons abordé la question « qu'est-ce que le socialisme ?» à travers une lecture de Rousseau. Nous avons abordé « qu'est-ce que le libéralisme ?» à travers la lecture principalement de Benjamin Constant. Et ce soir, nous aborderons la question donc « qu'est-ce que le conservatisme ?» qui est conservateur, puisque j'ai eu l'audace de dire qu'en tout et pour tout, il n'y avait rigoureusement que trois familles politiques qui sont donc le socialisme, le libéralisme et le conservatisme. On en ajoutera deux autres, mais qui sont, à proprement parler, plus un refus de la politique, me semble-t-il, qu'une manière d'assumer justement le souci politique, qui sont l'anarchisme et le fascisme. Ces considérations sur le conservatisme, nous les aborderons, comme les autres fois, à travers la lecture d'un auteur, et bien entendu, nous prendrons le principal d'entre eux, c'est-à-dire Edmund Burke. En entendant ce nom, un certain nombre doivent se dire qui est-ce. C'est intéressant que vous ne connaissiez pas, sauf les plus cultivés, les plus raffinés et les plus perspicaces d'entre vous, vous ne connaissiez pas d'auteur conservateur. Peut-être pourriez-vous citer Louis de Bonald, peut-être pourriez-vous citer Joseph de Maistre. Auguste Comte, si on le fait rentrer dans la lignée des penseurs conservateurs. C'est très intéressant. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que nous ne sommes pas, mais ça j'imagine que vous le savez, nous ne sommes pas dans un pays complètement libre, et donc il y a des pensées autorisées, des pensées qui ne le sont pas, et que donc il y a des pensées qui ne sont pas abordées simplement à l'école. Ce qui est assez curieux. Ce qui maintient l'idée que le conservatisme n'a jamais été pensé. Alors qu'il y a des grands auteurs, et on va en ouvrir un tout à fait remarquable. Mais ce n'est pas simplement du fait de la mauvaise volonté de nos gouvernants, c'est aussi du fait qu'un penseur conservateur, par nature, n'est pas un théoricien. Puisque même, au fond, il est conservateur parce qu'il répugne à la théorie. Et il dénonce les abstractions mortifères, les idéalismes ravageurs, la rationalité délétère, et préférant justement se réclamer, et c'est pour cela qu'il est conservateur, de ce qui est plutôt que de ce qui doit être. Et c'est pourquoi, effectivement, un conservateur sera souvent quelqu'un d'attaché aux travaux historiques, par exemple, mais pas vraiment un théoricien, car son rôle n'est pas de décrire une société modèle. S'il décrivait une société modèle, il serait d'une manière ou d'une autre progressiste, puisqu'il penserait qu'il faut arriver à réaliser cette société modèle. Non, le conservateur, il nous dit, surtout, finalement, ménageons des équilibres fondamentaux plutôt que de chercher à les perturber d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, je disais qu'on est socialiste lorsque on est convaincu que l'homme ne se réalise que par son appartenance sociale, que l'homme n'est homme que dans la mesure où il fait corps avec la société à laquelle il appartient. C'est une thèse que les conservateurs partagent. Car pour les conservateurs, l'homme réel, c'est effectivement, et ils sont en cela socialistes, l'homme réel, c'est l'homme social. Seulement, la grande différence, c'est que pour les conservateurs, cette société n'est pas à réaliser, elle est déjà là. Elle est plutôt à conserver, comme son nom l'indique, plutôt que à déconstruire, reconstruire, façonner à la proportion de nos volontés. Donc, si pour le socialiste, la société est à construire, car nous ne sommes pas encore dans une société, pour le conservateur, elle est à préserver, et à préserver de ceux qui voudraient s'en emparer de ceux qui voudraient inventer mieux. La conviction d'un penseur conservateur, c'est que la société repose sur des équilibres, disons le mot, c'est le mot-clé, naturel. Et on va donc être conduit à opposer le construit et le naturel, en quelque sorte. D'ailleurs, cette opposition a une certaine actualité dans les jours que nous vivons, entre autres, par exemple, à l'occasion des débats autour du mariage. Donc apparemment, le conservateur est pauvre en théorie, précisément parce qu'il ne les aime pas, ces théories, et qu'il n'aime pas la prétention de construire l'homme, plus que des volontés politiques ou des modèles d'institutions qui sont justement récusés. On trouvera chez les penseurs conservateurs une anthropologie, une certaine vision de l'homme. Et au nom de cette vision de l'homme, donc le refus des grands mots. Un conservateur sera quelqu'un qui, comme Burke, que nous allons ouvrir, s'inspire essentiellement d'Aristote. On a déjà évoqué la différence entre Aristote et Hobbes. Si vous l'avez oublié, je reviens dessus. Hobbes, rappelez-vous, dit « Je vais démonter la société jusqu'à son dernier rouage. » Le dernier rouage, c'est l'individu. Et ayant démonté la société jusqu'à son dernier rouage, je vais penser ce qui permet de construire une vraie société dans laquelle le pacte garantisse la sécurité de tous. Et donc l'image de Hobbes, c'est ce que nous avons dit, est solidaire du développement de la science moderne, c'est-à-dire de la science mécaniste, de celle qui pense tout en termes de rapport de force. Donc on a été conduit à dire, par exemple, que dans un système moderne, l'équilibre est toujours rapport de force, et que donc la société doit être pensée comme un système physique où les forces sont en opposition et s'équilibrent parce qu'elles s'opposent. Donc il y a une certaine gestion de la violence. Au contraire, l'image aristotélicienne de la société est une image non pas mécaniste mais organiciste, c'est-à-dire que ces métaphores seront essentiellement celles du vivant. Et Aristote donc nous dit que l'homme est un animal politique, animal social, zoon politikon, et qu'il est un animal naturellement social, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu. Un homme en dehors d'une société, dit Aristote, est un monstre ou un dieu. Et l'homme, donc, il est homme dans une société pour trois raisons fondamentales qu'Aristote livre dès les premières pages du recueil intitulé « Les politiques », dans lequel il dit que l'homme est naturellement social parce que la naissance est issue du lien sexuel qui unit un homme et une femme, et que donc il y a toujours une précession de la société par rapport à l'individu, parce que ce qui caractérise le lien social, c'est le travail. Alors on peut résumer ça de manière plaisante, mais non pas seulement en disant, au fond, pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait une femme et un bœuf. C'est à peu près ce que nous dit Aristote. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la jeunesse du vivant et le travail. Et à ces deux caractéristiques, Aristote ajoute celle de la parole. La preuve que l'homme est un animal social, c'est qu'il parle, et qu'il ne parle pas que pour émettre des émotions, mais il parle pour dire la vérité. Et que les hommes sont naturellement sociaux en ce qu'ils ont, les uns à l'égard des autres, le souci de la vérité. Et que ce souci de la vérité est naturel à une société, et qu'une société se déferait s'il n'y avait pas, d'une manière ou d'une autre, du fait de l'existence du langage, ce souci de la vérité. Ouvrons donc l'œuvre de Edmund Burke, B-U-R-K-E, pour ceux qui hésiteraient. Ce livre génial qui s'appelle « Réflexion sur la Révolution de France ». Edmund Burke publie ce livre en, tenez-vous bien, novembre 1790. Et en novembre 1790, dans « Réflexion sur la Révolution de France », il prévoit la terreur, la spirale guerrière, le régicide, etc. Et donc, il est dans les premiers à dénoncer les effets mortifères de cette révolution française qui était applaudie, par ailleurs, dans son camp. Car Burke n'était pas un Tory, n'était pas du parti conservateur. Burke était un Whig qui avait défendu les colons américains contre les Anglais, qui a défendu les droits du Parlement contre le monarque. Donc Burke serait plutôt dans ses positions politiques, donc un Whig, c'est-à-dire quelqu'un que, dans nos catégories à nous, nous disons plutôt libéral par rapport aux conservateurs théoriques qui semblerait plutôt être de son camp. Et donc lorsque Burke va prendre position pour dénoncer les méfaits de l'idée révolutionnaire, il va provoquer un séisme dans son propre camp des Whigs qu'il faudrait appeler, je ne sais pas comment. Je développerai deux points et un troisième. Le premier point, donc, ça sera les soubassements anthropologiques. Alors, vous voyez, on ne va pas décrire une société idéale. On va décrire ce qu'est un homme. Et puis, le deuxième point, ça sera l'analyse du pouvoir, puisque, je rappelle la première rencontre que nous avons eue, la politique, c'est la manifestation du pouvoir entre égaux. Et donc, une pensée politique nous conduit nécessairement à nous interroger sur la nature du pouvoir, comment se fait-il qu'un homme commande un autre. Et on terminera, sans doute, comme avec les socialistes et comme avec les libéraux, par quelques considérations sur le rapport aux religieux, pour terminer par quelques considérations critiques, puisque j'ai terminé l'analyse du socialisme par quelques considérations critiques, l'analyse du libéralisme par quelques considérations critiques, et on terminera par quelques considérations critiques sur la pensée conservatrice, en quoi peut-elle faire difficulté. Soubassement anthropologique, donc, il faut revenir à l'idée de nature. Nature, comme son nom l'indique, ça signifie ce qui est donné à la naissance, ce qui précède l'exercice de la volonté, ce qui ne résulte pas de l'exercice de la volonté, mais qui est le soubassement chronologiquement et sans doute aussi dans l'ordre des raisons antérieur aux volontés qui font que je ne choisis pas ni ma date de naissance, ni mon corps, ni le lieu de ma naissance. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas les trottoirs de Paris ou Manille. Et il y a une précession du donné sur le construit. Et cette précession du donné sur le construit, c'est ce qu'on appelle nature. Cette nature, elle est comprise en même temps comme un ordre. Et un ordre immanent. Voyez la différence avec, par exemple, les pensées contractualistes. Les pensées contractualistes, si elles veulent justifier qu'on construise la nature, il faut qu'elles décrivent la nature comme un désordre. Donc elles vont dire « la nature, c'est la guerre de tous contre tous ». Tu parles, personne n'y a jamais été. La nature, c'est un papa, une maman, et des gens qui s'unissent, qui se rassemblent, qui conduisent un bœuf et parlent. Si je veux justifier de construire, je dois décrire la nature comme le lieu de la guerre. Si au contraire, je veux justifier qu'il y a des équilibres fondamentaux qu'il conviendrait de ne pas toucher, à ce moment-là, je décris la nature comme un ordre immanent, c'est-à-dire auto-développé réglé donc antérieurement à toute volonté. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que un penseur, et ça c'est commun à tous les penseurs conservateurs, donc j'ai cité Louis de Bonald, j'ai cité Joseph de Maistre, il faudrait citer Auguste Comte, qui est arrangé dans les penseurs conservateurs, pour des raisons qu'on verra peut-être. Chez un penseur conservateur, les analogies sont les analogies organicistes, c'est-à-dire que cette société naturelle est comparée à un corps fait de différents éléments, également nécessaire, également coordonnées, qui ne sont pas dans un rapport de force, mais dans un rapport de symbiose, de coopération. D'ailleurs, le corps se déferait, selon la métaphore bien connue qu'on retrouve dans saint Paul et qu'on retrouve chez tous les auteurs, le corps se déferait si l'estomac, le poumon, le cœur et les pieds prétendaient se gouverner eux-mêmes. Non, chacun dépend du tout et dépend du tout en y apportant aussi sa contribution originale. Donc l'image organiciste, elle nous dit que une société, ça c'est un point très important, est un tout. C'est dans les livres, vous trouverez conception holistique ou conception holiste de la société. Un tout, ça se distingue d'une somme. Une somme, c'est l'addition des parties extrinsèques les unes aux autres. Donc une somme, on juxtapose et on règle par une loi extrinsèque les relations entre des unités disjointes. Au contraire, dans le tout est antérieur aux parties. Ça, c'est fondamental. Le corps est antérieur à l'estomac. Le tout est toujours antérieur aux parties. La société est antérieure aux individus. La musique est antérieure aux notes. On ne fera pas de la musique avec, on ne fera pas de la musique avec une somme de notes. Essayez de faire une somme de notes, vous ne ferez pas de la musique. Il faut que la forme précède et que les notes prennent leur place dans cette forme qui précède et qui fait que le tout donne son sens à la partie, le tout fonde la partie. Et c'est ce que disait Aristote donc lorsqu'il disait « le tout est ordonné, il n'y a de totalité que là où il y a un ordre immanent ». Mais vous voyez, cet ordre immanent, il est en même temps fait de complexité. Donc la pensée organiciste, c'est une pensée de l'ordre immanent et de la complexité. C'est d'ailleurs pourquoi Aristote insiste sur le fait qu'il est absurde de vouloir proposer, voire encore plus imposer, la même constitution aux Scythes, aux Parthes, aux Mèdes, aux Élamites, aux habitants de la Cappadoce, de la Phrygie, de la Pamphylie, de la Cinéréique inférieure. Il y a une constitution. Vous voyez, quand je m'attarde un peu là-dessus, on prend son temps pour rentrer dans une œuvre qui nous est pas très familière, parce que on connaît pas le conservatisme. Lorsque Platon réfléchit à la politique, il écrit la République. Superbe et pure, superbe construction de ce que doit être une société. Du coup, la République condamne toutes les sociétés existantes, parce qu'aucune des sociétés existantes ne correspond au modèle. Donc, par rapport aux sociétés existantes, la République est peut-être une épure, mais une épuration aussi. Car on va découper toutes les sociétés existantes pour qu'elles rentrent dans le modèle. L'épuration n'est jamais loin de l'épure. Au contraire, lorsque Aristote réfléchit à la politique, il recueille 150 constitutions. On a perdu ce recueil, il nous en reste deux. Donc il dit la constitution des Lacédémoniens, la constitution des Athéniens, la constitution des Corinthiens, la constitution des Syracusains, etc. Parce que arrachez de votre cervelle l'idée moderne que la nature serait uniforme, mais non, la nature est complexe. Il y a des tulipes, des roses, des pétunias et des pissenlits. Il n'y a pas un argument plus idiot, je ne peux pas y penser sans colère, que ce qui consiste à dire « la preuve qu'il n'y a pas de nature humaine, c'est que les coutumes sont différentes ». Ce à quoi il faut répondre tout de suite. La preuve qu'il y a une nature humaine, c'est que les coutumes sont différentes. Parce que ce qui est naturel, c'est la diversité, c'est la complexité. L'uniformité est le résultat d'une volonté, d'une uniformisation. Donc celui qui a un plan, il va uniformiser. Je ne vais voir qu'une tête. Mais celui qui constate simplement l'ordre tel qu'il se déploie, Eh bien, il voit manifestement que dans cet ordre, il y a des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Cappadoce, de la Phrygie, de la Pamphylie et de la Cyrénaïque inférieure. Et donc il y a ce qui est naturel, ce n'est pas que toutes les fleurs aient la même couleur, la même taille, etc. Et pour ensuite se demander comment elles peuvent bien faire pour vivre ensemble, c'est facile, elles vivent ensemble parce qu'elles sont différentes. Les hommes et les femmes, par exemple, tiens, oh, vivent ensemble parce qu'ils sont différents. Ah, marrant, hein. Il faut du temps pour arriver à retrouver les idées les plus simples. Et c'est pourquoi, évidemment, Burke est anglais. Et là, non seulement il est anglais, mais il est romantique ou pré-romantique. Alors là aussi, il faut arracher de vos cervelles des habitudes françaises. Le romantisme est le résultat de l'hostilité de l'Europe entière à la France. Et il ne faut pas s'imaginer que la Révolution française a été accueillie à bras ouverts par des gens qui étaient tout heureux de voir 700 000 brutes les déferler sur leur territoire. Vous n'avez qu'à penser à la différence entre le jardin à la française, qui est une figure du pouvoir, qui règle, qui uniformise, et qui est non seulement une métaphore du pouvoir, mais qui est un moyen du pouvoir, car le jardin à la française est panoptique. Et donc, si vous allez à Versailles, depuis la chambre du roi, vous pouvez surveiller absolument tout le jardin. Et donc, on taille les haies, on rabote et tout ce qui dépasse. Et on instaure un ordre contraignant, géométrique, rationnel, mais qui, au fond, n'est pas autre chose que la mainmise du pouvoir par la négation de la nature. Le jardin à l'anglaise, il a des méandres, il buissonne, il y a des bouquets de fleurs, des amours clandestines peuvent plus aisément s'y cacher, des bosquets, des grottes. Et tous les thèmes romantiques de la nature et du sentiment sont nés de l'opposition à l'universalisme rationaliste français. Si les Allemands, les Anglais, les Hongrois, les Polonais, les Italiens ont chanté le sentiment de la nature, et comme sentiment et comme nature, c'est par opposition au rationalisme français qui apparaît comme une pensée mécanique, froide, abstraite. Et donc le jardin à l'anglaise, avec sa complexité, avec ses méandres, avec cette manière souple qu'il a d'épouser la diversité, est une certaine figure du lien social, très différente évidemment de ce que peut être le jardin à la française comme allégorie rationalisme et de l'ordre absolu. Si la question vous intéresse, il y a un livre exemplaire sur la question que j'aime beaucoup, c'est « Les brigands » de Schiller. Schiller, un des premiers romantiques, il écrit « Les brigands » dans lequel il oppose... je raconte l'histoire quand même, tant pis. Dans lequel il oppose donc deux frères qui se disputent l'héritage du roi. Bon. Et alors, il y a un frère calculateur sournois qui ourdit des intrigues extraordinaires pour prendre le pouvoir... qui est d'une intelligence d'ordinateur, et il s'appelle François. Et puis il y a un frère généreux, insubordonné, qui va vivre dans la forêt, qui va s'abriter dans... Robin des Bois, c'est Robin des Bois, qui va s'abriter... Robin des Bois, c'est le héros romantique contre le roi français. Et donc il va aller vivre dans la forêt, qui va étreindre les arbres pour retrouver de la force, et il s'appelle Karl. À la fin, heureusement, Karl l'emporte contre le sournois François, qui voit tous ses mécanismes échouer face à l'étourderie somptueuse du héros germanique. Voilà, ce qui est naturel, c'est la diversité. Ouvrons une page de Burke. Dans cet état où les choses se font suivant la marche de la nature, les parties améliorées ne sont jamais entièrement nouvelles, ni les parties conservées entièrement caduques. Un organisme se renouvelle sans cesse. il ne se refait pas à zéro. Manifester de cette façon et pour ces raisons, la fidélité que nous témoignons à nos aïeux ne s'inspire d'aucune superstition d'antiquaire, mais d'une philosophie de l'analogie. Philosophie de l'analogie que précisément la modernité a repoussée. En adoptant le principe de l'héritage, nous avons donné à notre forme de gouvernement l'image d'une parenté par le sang. Nous avons fait entrer notre constitution et nos lois fondamentales jusque dans nos foyers et noué avec elles de véritables liens de famille. Nous avons ainsi uni dans nos cœurs, pour les chérir avec toute l'ardeur de leurs affections réciproques et rassemblées, notre État, nos foyers, nos tombeaux, nos hôtels. Vous voulez que je vous le relise ? D'accord. Non, parce que vous n'avez pas écouté. Nous avons ainsi uni dans nos cœurs, pour les chérir avec toute l'ardeur de nos affections réciproques et rassemblées, notre État, nos foyers, nos tombeaux, nos hôtels. Ce n'est pas le moment d'aller ouvrir les tombeaux, de renverser les hôtels et de faire exploser les foyers. Mais il faut les aimer. Plus loin, on peut encore lire. Nous apprenons à vénérer nos institutions comme la nature nous enseigne à honorer les personnes en hommage à leur âge ou à la mémoire de leur père. On reviendra sur cette question. Et s'adressant aux Français, il dit « Vous possédiez dans vos vieux états la variété d'organes correspondant à la variété des classes dont votre communauté était heureusement composée. Vous aviez tout ce jeu de combinaisons et d'oppositions d'intérêts, ce jeu d'actions et de réactions qui, dans le monde politique comme dans le monde naturel, fait naître l'harmonie de toutes les forces convergentes. Ces conflits d'intérêts que vous regardiez comme une tare sont en fait la barrière salutairement opposée à toutes les résolutions précipitées. Ils font de la délibération non pas un choix mais une nécessité. Ils s'assujettissent tout changement au compromis. » Primauté du compromis par rapport à la théorie. Une société est complexe, elle est faite de différents corps. Ces corps sont extrêmement variés. Le résultat de la Révolution française a été d'uniformiser les poids et les mesures, de créer les départements, d'uniformiser la langue, on a mis du temps, alors que une société, elle doit vivre naturellement de quelques compromis et négociations entre des intérêts qui ne sont pas forcément divergents et qui demandent simplement d'avoir plaisir à vivre ensemble. Nous pouvons veiller ainsi à ce que les différentes parties du système n'entrent pas en conflit. Nous pouvons remédier aux difficultés que recèlent les dispositions les plus prometteuses au fur et à mesure qu'elles se manifestent. Nous faisons en sorte de sacrifier le moins possible. Nous ne cessons de compenser, concilier, équilibrer. Un État idéal, il exige les sacrifices. Et c'est pour ça que d'ailleurs, partout, il va faire passer le couteau. Non, pas de sacrifice. Moins possible. Compenser, concilier, équilibrer. C'est ainsi que nous parvenons à faire entrer dans un tout cohérent des anomalies, les contradictions qui caractérisent les esprits, les affaires des hommes. Ce qui fait la qualité de cet ensemble, ce n'est pas sa simplicité, mais quelque chose de bien supérieur, c'est sa composition. Je reviens à l'idée du romantisme et à la primauté du sentiment. Auguste Comte, par exemple, donc qui est lui aussi un de ceux qui ont critiqué la Révolution française, critique la Révolution française donc comme un délire rationnel. Et donc Auguste Comte fait partie, comme Burke, comme de Bonald, de ceux qui privilégient le sentiment par rapport à la raison. Pourquoi ? Parce que le sentiment nous attache à nos proches. Et que le lien social commence avec les proches. Et on n'améliorera pas le lien social en exigeant de sacrifier les liens avec les proches. on n'améliorera pas l'universel au sacrifice du particulier. Et ce lien au particulier, si la raison est effectivement la capacité de l'universel, le lien avec le particulier, c'est celui donc du sentiment, d'où le contexte éminemment romantique. Donc vous n'avez qu'à penser à la littérature, à la musique romantique. Quand Chopin, quand Liszt compose, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent des airs folkloriques, c'est-à-dire qu'ils prennent le peuple. Quand le Gérard de Nerval va chercher les poésies et les chansons populaires, il va les chercher dans le peuple. Et donc on va opposer le peuple à la rationalité de l'État. Donc ce peuple, il est une réalité complexe et vivante, d'où l'intérêt des romantiques pour le sentiment et le folklore. En Angleterre, nous autres Anglais, en Angleterre, nous n'avons pas encore été vidés de nos entrailles. Les Français sont vidés de leurs entrailles. Dans notre fort intérieur, nous sentons toujours vibrer, nous chérissons et cultivons ces sentiments innés qui sont les fidèles gardiens et les conseillers de notre devoir, comme ils sont le vrai soutien des mœurs libérales et viriles. Pour Auguste Comte, comme pour Burke, la notion de droit est une notion délétère, qui n'existe que pour des individus qui se conçoivent comme potentiellement séparés. Si la société est antérieure à la volonté, nous n'avons que des devoirs. Et nous trouvons notre ligne de conduite avec communauté à laquelle nous appartenons, et à commencer donc par la communauté la plus proche. Nous conservons nos sentiments naturels dans leur pureté native et leur intégrité, sans les laisser sophistiquer ni par la pédanterie ni par l'incroyance. Ce sont des cœurs de chair et de sang qui battent dans nos poitrines. D'où ce qu'on trouve, et alors là aussi ça peut hérisser le poil d'un Français, mais bon, il faut ce qu'on trouve dans toute la littérature des conservateurs, c'est l'éloge du préjugé. Et on voit bien pourquoi. Parce que, effectivement, le cartésianisme, surtout dans son usage le plus scolaire, est ce qui nous invite à faire table rase de tous les préjugés. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale actuel a dit le rôle de l'école est de libérer l'enfant de ses préjugés. Ouais. Tu libères l'enfant de ses préjugés, tu le fais renier sa famille. Et donc, est-ce que le rôle de l'école est d'arracher l'enfant à sa famille pour en faire quoi? Pour le faire rentrer où? Et donc, Burke dit, nous autres Anglais, nous sommes attachés à nos préjugés. Ce qui fait d'ailleurs qu'il garde un système de poids et mesure assez compliqué. Et qui continue à rouler à gauche. Ils sont attachés à leurs préjugés. Le préjugé est comme la nature par rapport à la liberté. Il est ce qui précède le jugement. Ce qui précède le jugement n'est pas forcément ce qui le leste. C'est aussi ce qui lui donne son équilibre. En ce sens, ça le leste aussi. C'est aussi ce qui lui donne, en quelque sorte, un réservoir de signification préalable. Un homme sans préjugé, dit Burke, est un homme dangereux. Ce qui est une remarque très intéressante. Car un homme sans préjugé est un homme qui va être livré aux idéologies et qui finalement sera prêt à suivre n'importe quelle doctrine. On le voit bien dans l'alliance assez étrange auquel on assiste des voyous et des fanatiques. On est assez étonné quand on voit à Mohamed Merah comment un voyou a-t-il pu devenir un fanatique. Mais le résultat est simple, un homme sans préjugés est un homme dangereux. Et donc s'il n'a pas de préjugés, il est prêt à adopter finalement n'importe quelle doctrine pourvu qu'elle soit construite et donne les apparences de la rigueur. Une telle société est donc faite aux yeux des conservateurs, est donc fait d'appartenances multiples et concentriques, dont le centre est le cœur, vous voyez, la famille. C'est ce que disait un lord anglais à son fils. Un lord anglais disait à son fils, « Vous voterez comme un lord, c'est-à-dire comme votre père, et non pas comme un voyou, c'est-à-dire selon votre conscience. Et ce qui est une façon brutale et magnifique d'exprimer donc l'enjeu de la question. Cette société donc faite de cercles multiples et concentriques, c'est justement celle que la Révolution française a fait voler en éclats en l'employant sous la rationalité du système métrique et des départements. On regrette l'époque où le pot avait une valeur différente en Provence, dans le Lyonnais, en Ardèche, etc., et où, passant d'une province à l'autre, on avait des pots différents, probablement d'ailleurs beaucoup plus réduits en Ardèche. On se flatte d'avoir fait adopter le principe géométrique et de vouloir mettre fin à tous les attachements locaux. On en a encore là, hein. On se flatte d'avoir fait adopter le principe géométrique et de vouloir mettre fin à tous les attachements locaux. On ne connaîtra plus, nous dit-on, ni Gascons, ni Picards, ni Bretons, ni Normands, mais seulement des Français. Nous n'aurons qu'une patrie, qu'un cœur, qu'une assemblée. Mais il est beaucoup plus vraisemblable que votre pays sera bientôt habité non par des Français, mais par des hommes sans patrie. On n'a jamais connu d'homme attaché par la fierté, par un penchant ou par un sentiment à un rectangle ou à un carré. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui sont originaires de la Saône-et-Loire, ce qui est mon cas. Personne ne se fera jamais gloire d'être originaire du carré numéro 71. C'est drôle, hein ? Ou de porter quelque autre étiquette du même genre. C'est au sein de nos familles que commencent nos affections publiques. Et l'on peut dire qu'un homme insensible aux liens de parenté ne fera jamais un citoyen dévoué à son pays. Qu'est-ce que l'enjeu est fort ? Toute la République française s'est construite dans la volonté d'arracher l'enfant aux familles, d'arracher l'enfant aux provinces, pour qu'il devienne un citoyen. Burke nous dit, doucement, si cet enfant vous ferait peut-être une collectivité de gens sans patrie, mais si vous ne faites pas des Gascons, des Picards, des Bretons, des Normands, vous risquez donc de ne pas constituer vraiment une unité supérieure, si ce n'est, et c'est bien ce qui va se passer, par la violence. Vous serez condamné à édifier une unité par la violence. Alors, je vous lis la suite quand même. De nos familles, nous passons au voisinage, aux gens que nous fréquentons et aux séjours que nous aimons dans notre province. Ce sont pour nos sentiments autant de lieux d'accueil et de repos. Ces divisions anciennes de notre pays qui sont le fruit des siècles et non le produit d'un acte soudain d'autorité sont autant de petites images de notre grande patrie qui nous réchauffe le cœur sans que jamais ces inclinations subordonnées nuisent à l'amour que nous portons au pays en son entier. Peut-être cette tendresse particulière nous prépare-t-elle au contraire à ces sentiments plus élevés et plus vastes qui peuvent seuls conduire les hommes à prendre à cœur, comme s'il s'agissait de leurs intérêts personnels les plus chers, ceux d'un royaume aussi étendu que la France. Et ce qui attache les citoyens à l'ensemble de ce territoire, de même qu'au nom de ces anciennes provinces, c'est un corps de vieux préjugés et d'habitudes qu'on ne peut guère fonder en raison, mais non les propriétés géométriques de la démonstration. Deuxièmement, quelle est alors l'analyse que l'on peut faire dans ces termes donc du pouvoir et du pouvoir politique ? Vous pourriez continuer aisément. La première chose que nous dit Burke, dans une page que je n'ai pas retrouvée, mais je vous demande de me croire, c'est que il ne faut pas chercher l'origine du pouvoir. Un voile sacré, dit-il, doit cacher l'origine du pouvoir. Il doit rester quelque peu mystérieux. Car qui en chercherait les causes, les sources, risquerait finalement de le discréditer, de le réduire. Et donc, le pouvoir, nous reviendrons sur cette idée avec les anarchistes, le pouvoir a inévitablement quelque chose de sacré, et ce sacré suppose que on n'explore pas trop, justement, les ressorts de ce pouvoir, ses causes économiques, historiques, etc. Et c'est ce qui fait, donc, que le lien social est bien plus essentiel que celui du contrat. Alors là, nous sommes dans une pensée de la communauté. La communauté, c'est le lien social qui précède les volontés particulières, pour que cette communauté est toujours précédée d'elle-même, en quelque sorte, par une origine obscure qui ne peut guère s'exprimer que de manière mythique. Et le recours à la fondation mythique de la communauté est inévitable pour que celle-ci puisse se transmettre et fonder un véritable lien. Et d'où deux idées chères à Edmund Burke. La première, c'est que la société est fondée sur un contrat, mais elle est fondée, et c'est une idée que l'on retrouvera chez Auguste Comte, elle est fondée sur un contrat avec les morts. La société, c'est le contrat qui unit les morts et les vivants. C'est ce que disait Auguste Comte quand il disait « La société est faite de plus de morts que de vivants ». Là, au moins, il ne se trompe pas. Il est légitime, au fond, que les morts gouvernent les vivants. La dernière fois, on a considéré la question du libéralisme. Un des combats des libéraux, c'est celui de la modification des lois sur l'héritage et au fond même de la récusation de la légitimité de l'héritage. Parce que l'héritage, c'est les morts qui continuent de régner parmi les vivants. Le grand adversaire d'Edmund Burke, c'était Thomas Paine, que vous n'ignorez pas non plus. Thomas Paine était un bonhomme intéressant qui était d'origine anglaise, qui est parti aux États-Unis combattre aux côtés des insurgés américains. Il a pris la nationalité américaine. Il est un des fondateurs des États-Unis, avec donc le texte de 1776. Et Paine a rejoint la Révolution française, où il est devenu député français. Et ardent partisan de la Révolution jusqu'à ce qu'il manque d'être décapité. Et donc c'est Paine qui, dans un texte célèbre, proclame « Nous devons émanciper les vivants de la tyrannie des morts ». Et il n'est pas légitime que, à travers leurs possessions, à travers leurs coutumes, à travers les usages ancestraux, des morts continuent de régner sur des vivants. On trouve bien l'idée libérale du self-made man, de celui qui, finalement, naît sans dette. Pour avoir des devoirs, il faut naître sans dette. Le conservateur, il naît endetté. Et il naît avec le sentiment d'une dette, et c'est dans cette dette qu'il déchiffre ses devoirs. Est-ce que je peux dire « je ne dois rien à ceux qui me précèdent » et donc « je me suis fait tout seul, je suis l'auteur de moi-même », donc c'est le personnage du Picaro dans la littérature, de tous ces... C'est Figaro, hein. Figaro, enfant trouvé, le personnage de l'enfant trouvé hante la littérature du 18e, c'est la préfiguration du self-made man. Et donc on l'a bien incarné dans Figaro. Et donc il ne doit sa carrière qu'à lui-même. Alors que, évidemment, l'aristocrate, lui, il trouve ses devoirs avec son nom. Un aristocrate est quelqu'un qui a la chance de ne pas avoir à se demander quels sont ses devoirs. Car depuis qu'il est petit, il sait qu'un deux machins ne se comporte pas comme ça. Et que, finalement, il reçoit, avec la lignée dans laquelle il est inscrit, l'usage de sa liberté et les devoirs qui y correspondent. Donc, vous voyez, une philosophie qui insiste sur les droits est une philosophie qui part de l'individu, une philosophie qui insiste sur les devoirs est une philosophie qui part de la précession de la communauté. De telle sorte que l'individu succédant à la naissance et à son histoire ne peut que prolonger cette histoire. Et donc c'est contre Thomas Paine que... Il y a eu plusieurs échanges, donc je ne sais pas lequel a parlé en premier. Vous remarquerez que, depuis la Grande Charte jusqu'à cette Déclaration des droits, le principe constant de notre Constitution a été de faire valoir et d'affirmer nos libertés comme un héritage inaliénable qui nous est venu de nos aïeux et que nous devrons transmettre à notre postérité comme un bien appartenant en propre au peuple de notre royaume, indépendamment de tout autre droit préalable ou plus large. Par ce moyen, notre Constitution conserve son unité malgré la grande diversité de ses parties. Cette politique ne paraît pas être l'effet d'une profonde réflexion, ou plutôt l'heureux effet de cette imitation de la nature qui est la sagesse sans réflexion. L'esprit d'innovation est en général le résultat d'un caractère intéressé et de vue bornée. Ceux-là ne se soucieront guère de leur postérité qui jamais ne se reporte à leurs aïeux. Je relis cette phrase. Ceux-là ne se soucieront guère de leur postérité qui jamais ne se reporte à leurs aïeux. C'est un enjeu très très intéressant. Hier, je fais une parenthèse, on avait une réunion très intéressante avec des chefs d'entreprise. Et est venue la discussion, donc c'était des créateurs d'entreprises, et est venue la discussion, mais est-ce que je crée une entreprise pour la transmettre ? Eh bien, la réponse du plus grand nombre est au bon nom. Là, on est vraiment dans un tout autre registre que celui de Burke. Et donc, il semble bien que le constat de Burke puisse être validé. Celui qui ne doit rien à ses aïeux ne doit rien non plus à ses descendants. En outre, le peuple anglais sait que l'idée d'héritage fournit un principe sûr de conservation et un principe sûr de transmission. La question de la transmission envahit nos pages maintenant. Mais comment transmettre dans un monde où personne ne reconnaît de dette ? Si bien que on peut dire aussi que ce pouvoir est fondé sur une réalité religieuse et que le pouvoir politique est inséparable aux yeux du conservateur qu'est Burke, comme d'ailleurs Auguste Comte, bien qu'Auguste Comte ait été athée à sa manière, mais comme le lecteur d'Auguste Comte qui était Maurras. Maurras, lecteur d'Auguste Comte, penseur conservateur, était athée. Me disait, la religion est bien nécessaire au lien social. Et c'est comme ça qu'Auguste Comte a voulu réinventer une nouvelle religion, la religion de l'humanité, car Auguste Comte était conscient que seule la religion relie. Ce que nous avons vu avec Benjamin Constant la dernière fois. Seulement, évidemment, ça pose la question, une religion peut-elle s'inventer ? Donc la religion qu'a inventée ce pauvre Auguste Comte était un peu pitoyable, mais... On a encore, si vous prenez dans Paris, pas loin du quartier du Marais, il y a encore le temple de la religion d'Auguste Comte à l'humanité avec un grand H. Et donc le conservateur sera attaché à la religion comme lien social. Pré-critique. Nous savons et nous mettons notre orgueil à le savoir que l'homme est par nature un animal religieux, que l'athéisme est contraire non seulement à notre raison, mais à notre instinct. Et qui ne peut pas longtemps l'emporter. Mais si, dans un moment de débordement, dans le délire d'une ivresse produite par cette eau-de-vie brûlante tirée de l'alambic de l'enfer qui bouillonne en ce moment en France, nous en venions à mettre à découvert notre nudité en rejetant cette religion chrétienne qui a fait jusqu'ici notre gloire et notre consolation et qui a été l'une des grandes sources de la civilisation, nous craindrions que quelques superstitions grossières, pernicieuses et dégradantes ne viennent prendre la place. Il y a un autre passage que j'aurais voulu vous lire. Ah mais oui, excusez-moi. Oui, par exemple, on va aborder une question encore plus délicate. Vous voyez, le préjugé, tout ça, on brise tous les tabous ce soir. Par exemple, Burke pose la question des superstitions populaires. Faut-il nettoyer la religion de ses superstitions populaires ? Décaper nos statuts pour avoir une conduite plus pure ? Mais évidemment, là encore, c'est une introduction d'un rationalisme un peu orgueilleux que de dire « je vais purifier le sentiment religieux ». en disant plus de cierges, plus de coutumes, plus de cérémonies, etc. Alors évidemment, cette religion nettoyée au Karcher ne sera plus qu'un squelette impersonnel et fade. Et si bien que, de la même manière que la raison ne doit pas craindre la proximité du préjugé, attention, la religion, selon Burke, ne doit pas craindre la proximité de la superstition. Car vouloir échapper à cette proximité de la superstition, c'est se condamner à avoir une religion désincarnée, qui tombera dans le symbolique ou le conceptuel. Vous ne me croyez pas? Écoutez Burke. Nous savons, et qui mieux est, nous sentons. Pratiquement, vous auriez pu dire la phrase suivante si vous avez écouté. Quand même. Nous savons, et qui mieux est, nous sentons, que la religion est la base de la société. Nous en sommes ici tellement convaincus qu'il n'est pas de superstition dont la rouille aurait pu, au cours des siècles, entacher la religion, du fait des absurdités accumulées de l'esprit humain, que 99 Anglais sur 100 ne préféreraient à l'impiété. Nous préférons la superstition à l'impiété. Nous ne serons jamais assez sots, nous autres Anglais, lorsque nous aurons à épurer un système de ce qui le corrompt, à suppléer à ses défauts et à l'améliorer, pour appeler à notre aide un ennemi. Si nos principes religieux devaient un jour exiger de nouveaux éclaircissements, ce ne serait pas à l'athéisme que nous ferions appel pour nous les donner. Jamais nous n'illuminerons notre temple de ce feu profane. Nous y ferons briller d'autres flammes, nous y brûlerons d'autres encens que l'infecte matière importée par les contrebandiers d'une métaphysique adultérée. Si les conditions d'établissement de notre Église avaient besoin d'une révision, ce ne serait ni la lésine ni la rapacité publique ou privée que nous employerons pour la contrôler, pour percevoir et répartir ses revenus. Sans condamner avec violence ni la confession grecque ni l'arménienne, ni, depuis que les passions se sont apaisées, la catholique et romaine, nous préférons le protestantisme, non pas parce que nous croyons qu'il renferme une moindre part de la religion chrétienne, mais parce que nous sommes persuadés qu'il en renferme davantage. Nous ne sommes pas protestants par indifférence, mais par zèle. Au passage, vous n'avez peut-être pas remarqué une phrase sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'il s'agit de défendre nos libertés. Là encore, c'est une grande différence avec les deux autres pensées que nous avons abordées, où il s'agissait de conquérir des libertés, de faire advenir des libertés. Curieusement, Burke dit qu'il s'agit de défendre les libertés. Elles sont déjà là, ces libertés. Et il faut les défendre contre qui ? Ben contre l'État, qui finalement est celui qui a intérêt à ce que le système soit entièrement transparent et pouvoir s'introduire dans tous les recoins. C'est au fond le droit coutumier, vous voyez, celui des aristocraties locales, celui des provinces, défendre les libertés. Alors remarquez l'usage du pluriel. Non pas la liberté comme concept, mais les libertés comme usage derrière le buisson provincial, en quelque sorte, garder du regard panoptique de l'État. Et la seule chose que l'on puisse demander à l'État, c'est d'être au fond le gardien de ses libertés. Ce dont Burke voit un modèle dans la charte anglaise. Et c'est sans doute aussi en ce sens que la charte à la Restauration a été écrite, bon, enfin, je ne sais pas trop, là, je me prononce pas, il y a sûrement des gens plus compétents que moi, du point de vue historique, pour me corriger. Non seulement le rôle du pouvoir politique est de garder les libertés, mais le rôle du pouvoir politique est de satisfaire les besoins. Voilà encore une notion que nous n'avions pas rencontrée. Vous voyez, le besoin, c'est précisément ce qui relie chacun à sa nature. Et donc le rôle de l'État, il est d'être protecteur de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui ont des besoins à satisfaire ou qui sont menacés, mais non pas des droits, voyez. Quelle est la différence justement entre le droit et le besoin ? C'est que le droit, je l'ai en tant que sujet rationnel libre, le besoin, je l'ai en tant qu'être naturel. Et il est plus important de donner à manger à quelqu'un que de lui donner des droits. Car les droits, par eux-mêmes, ne vont pas résoudre la détresse, la précarité qui est la sienne. Le gouvernement des hommes n'est pas établi en vertu de droits naturels qui peuvent exister et existent en effet indépendamment de lui, et qui, dans cet état d'abstraction, présente toujours beaucoup de clarté, beaucoup plus de clarté, et approche bien plus de la perfection. Mais c'est justement cette perfection abstraite qui fait leur défaut. Avoir droit à toute chose, c'est manquer de toute chose. Le gouvernement est une invention de la sagesse humaine pour pourvoir aux besoins des hommes. Les hommes sont en droit d'obtenir de cette sagesse qu'elle réponde à ses besoins. D'où la critique des droits de l'homme. Alors ça, c'est la seule page qui soit connue de Burke, soit un peu connue de Burke, parce que Burke utilise une image qui est restée célèbre. Dans la page que je vais vous lire, qui est la page à peu près connue de Burke, il nous dit que les droits de l'homme sont des rayons lumineux rectilignes qui ne pénètrent pas bien dans une société complexe. Lorsqu'on fait pénétrer ces droits métaphysiques dans la vie de tous les jours, ils obéissent comme les rayons de lumière traversant un milieu dense aux lois de la nature. Ils sont réfractés hors de la ligne droite. Dans la masse énorme et compliquée des passions et des besoins humains, les droits originels de l'homme subissent en effet une telle variété de réfractions et de réflexions qu'il devient absurde d'en parler comme s'il leur restait quelque chose de leur simplicité primitive. La nature de l'homme est complexe. Les fins de la société le sont au plus haut degré. Aussi, aucune conception ou organisation simple du pouvoir ne peut-elle convenir ni à la nature de l'homme ni à ses affaires. Lorsque j'entends vanter la simplicité d'invention à laquelle viserait ou atteindrait telle constitution, j'en conclus sans peine que ces auteurs doivent ou tout ignorer de leur métier ou négliger complètement leur devoir. Tout gouvernement simple est vicié à la base, pour ne pas dire pire. Je ne sais pas ce que c'est que pire. Certes, en ne considérant la société que sous un point de vue, toutes ces conceptions simples de la cité sont séduisantes. Chacune, en effet, répond à une fin particulière, beaucoup mieux que le système plus complexe ne peut répondre à l'ensemble complexe des fins multiples. Mais il vaut mieux répondre avec quelque imperfection à l'ensemble des besoins que devoir régler certains objets avec la plus grande exactitude, tandis que d'autres restent complètement négligés. On comprend alors je ne m'appesantirai pas là-dessus, que la place de la religion est donc une place, je disais, organiciste, celle qui relie une société à un fondement indiscutable. En effet, il faudrait trouver, c'est le problème des droits de l'homme d'ailleurs, il faudrait trouver quelque chose qui puisse être mis hors discussion pour que la discussion soit possible. Une discussion n'est possible que s'il y a, rangé quelque part, comme le maître étalon au pavillon de Sèvres, quelque chose d'indiscutable. Et le rapport à la transcendance, le rapport à la volonté fondatrice du Créateur pour cet ordre social fait de famille, de travail et d'interconnexion complexe, permet donc de sortir de la perpétuelle confrontation, discussion des intérêts individuels rivaux. Par bien des côtés, moi je trouve désolant que cette pensée conservatrice ne soit pas connue, quoi. C'est même scandaleux. C'est un signe de la malhonnêteté intellectuelle de nos universités. Parce qu'il pose des questions qui sont pleines de vérité, de bon sens. Maintenant, évidemment, il y a une difficulté. D'ailleurs, le mot conservateur est souvent confondu avec celui de réactionnaire. Alors, on peut dire conservateur, on peut dire traditionnaliste, on peut dire traditionnaliste. Celui qui préfère la transmission. Le traditionnaliste, c'est celui qui préfère ce qui se transmet. Donc, vous pouvez remplacer conservateur par traditionnaliste. La difficulté tient à ce que on a évoqué à propos de l'émergence du socialisme et du libéralisme le phénomène de la modernité. Ce phénomène de la modernité, il est lié au développement de la science et de la technique. Et il semble bien que la pensée conservatrice ait quelques difficultés à être une pensée de la technique, ait une certaine difficulté à être une pensée d'un monde dans lequel la technique prévaut, sauf à vivre dans une réserve. Et encore. En effet, on a déjà eu l'occasion de le dire rapidement, le propre de la technique, c'est d'être analytique. Donc la force de la pensée conservatrice, c'est qu'elle est holiste. C'est-à-dire qu'elle pense bien le tout. Elle pense bien que le tout précède la partie. Elle pense bien que le tout est ordonné et que la disjonction des parties a nécessairement des effets délétères. Mais la difficulté tient à ce que cette disjonction, elle résulte bien du couteau de l'intelligence technicienne qui pénètre tous les liens sociaux, toutes les solidarités, et fait que, il n'y a plus de communauté parce qu'il n'y a plus de lavoir quand il y a des salles à manger, quand il y a des machines à laver. Il n'y a plus de communauté parce qu'il n'y a plus de veillée quand il y a la télé. Il n'y a plus de communauté quand il n'y a plus de. Vous pourriez prendre quand il n'y a plus d'escalier parce qu'il y a des ascenseurs et qu'on ne se rencontre même pas et que mon voisin du dessus n'est jamais que plus que mon concurrent. Alors que même, j'ai plus l'occasion même de se connaître son visage. C'est la belle efficacité. Donc la technique est un levier inévitable d'émancipation de l'individu. La jeunesse de l'individu, c'est l'homme technicien. Vous donnez une mobylette à un gamin d'un village de la Drôme, il échappe à ses parents. Et vous ne pouvez pas faire que il soit enraciné dans l'ensemble de ses devoirs liés à la terre, etc. Donc, si juste, parce que je crois que vraiment c'est une pensée juste et intéressante, si juste que puisse être cette attitude conservatrice, elle est sans cesse confrontée à l'évolution d'une technique qui nous fait croire que tout est possible. Et en effet, tout semble possible. Alors c'est pourquoi il convient, me semble-t-il, de suivre d'un œil attentif les débats autour de l'écologie, que ce soit l'écologie quant à la terre ou l'écologie quant aux hommes. Parce que, d'ailleurs j'en dis quelques mots à la fin du petit éditorial que vous aurez peut-être l'occasion de lire. Donc au fond la question c'est de savoir si nous avons les moyens de faire voler en éclats toutes les cellules naturelles au fond. De les déconstruire et de les reconstruire à notre guise. Et la question est assez bien posée par les débats actuels sur le mariage. où au fond, on a une certaine vision donc de la construction de l'homme. Ce qu'on nous dit, c'est le masculin et le féminin sont construits, donc s'ils sont construits, on peut les déconstruire et les reconstruire. On peut prendre ça comme une sorte de mécano. Sauf qu'un écologiste dit, attends, la nature n'est pas un mécano. Elle est faite d'équilibres fondamentaux. Touche pas à mes équilibres. Je crois que là, si nous prenons au sérieux la pensée de Burke, nous rencontrons un certain nombre d'enjeux fondamentaux qui sont ceux que nous sommes en train de vivre.